RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, une émission réalisée ce matin, vous l'avez entendu, avec le soutien du CCFD Terre Solidaire, une ONG qui agit contre toutes les formes d'injustice et notamment celle de ne pas souffrir de la faim. Alors je vous propose jusqu'à 11h un petit voyage tant qu'à faire sur l'île de Madagascar. On va regarder Madagascar sous l'angle de reportages réalisés par une équipe de journalistes. On va voir comment raconter certaines situations et puis comment cette ONG travaille sur place avec ses partenaires locaux. Vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr, en direct avec vos témoignages. Vous avez déjà été à Madagascar, qu'avez-vous pu observer sur place et pourquoi c'est important de mettre en avant certaines situations. Venez nous parler également du CCF des Terres Solidaires, une ONG que vous connaissez certainement grâce à RCF. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos quatre invités au profil bien différent, je commence avec vous, Véronique Algieux, bonjour.
Bonjour Melchior.
On se supporte déjà beaucoup au travail, mais en plus vous venez dans Je pense donc j'agis. On est ravis de vous entendre, journaliste à RCF, rédactrice en chef foi et spiritualité. Alors si vous êtes avec nous, c'est parce que vous avez participé à ces reportages à Madagascar. On y revient dans un instant. Bonjour Roberta Valerio.
Bonjour Melchior.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes photographe professionnel. Vous avez Vous travaillez beaucoup avec le CCFD Terre Solidaire dans le cadre de la photographie. Charlotte Créder, bonjour.
Bonjour.
Chargée de mission sur l'Afrique australe et l'océan Indien pour le CCFD Terre Solidaire. Vous connaissez bien Madagascar et vous allez pouvoir nous parler justement des situations sur place. Et puis notre quatrième invité, c'est vous, Jean-Baptiste François. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service international du quotidien La Croix. Charlotte Créder, je commence avec vous. Qu'est-ce que c'est une chargée de mission du CCFD Terre Solidaire? Quel est son rôle au sein de l'ONG?
Alors, une chargée de mission, déjà, c'est une personne salariée du CCFD. Je fais la distinction avec les bénévoles, parce que le CCFD a quand même un grand réseau de bénévoles. Et donc, cette personne chargée de mission va être chargée de mettre en œuvre sur une zone géographique donnée, donc pour ce qui me concerne l'Afrique australe, l'océan Indien, qui comprend trois pays, dont Madagascar, de décliner donc et de mettre en œuvre les objectifs du CCFD, ces objectifs globaux. Donc du coup, ça consiste d'un côté à acquérir des connaissances sur le pays, grâce à notre histoire dans le pays, des échanges avec des partenaires, avec différents alliés, avec tout type de personnes ressources en fait, que ce soit des universitaires, des journalistes, mais aussi avec des personnes des communautés, des personnes sur le terrain. Donc en fait, on est vraiment dans un travail permanent d'analyse et de problématisation des enjeux de développement locaux. Et donc, ils vont nous aider en fait à définir quels seront les enjeux et les thématiques qui, selon nous, seront les plus pertinents à aborder dans un contexte donné.
Vous avez
parlé dans le respect des grandes orientations du CCFD.
Ouais. Vous avez parlé de partenaires, Charlotte. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Ce sont des associations locales?
Oui, donc les partenaires, ce sont des organisations locales. Tout type d'organisation, en fait, collective. Donc ça, c'est un de nos critères, c'est que ce soit une organisation collective qui ne soit pas, qui ne travaille pas dans le domaine politique ou dans le domaine économique, mais ça va être des organisations communautaires, des mouvements sociaux, des syndicats, des organisations d'église, des associations, des ONG.
Alors, si vous êtes avec nous, Véronique, Roberta, Charlotte et Jean-Baptiste, c'est par rapport à des reportages qui ont été réalisés en novembre 2023 pour justement mettre en avant quelques situations à Madagascar. On va y revenir. Véronique, c'était votre première fois à Madagascar?
Oui, c'était la première fois que j'allais à Madagascar, sur la grande île, comme on dit. C'est forcément un choc. On m'avait raconté la pauvreté à Madagascar, la diversité des paysages, la diversité des réalités, et bien le voir, en être témoin et pouvoir. En plus, on a quand même une grande chance quand on est journaliste ou photographe de pouvoir vraiment être au plus proche des gens, même si on trouve que le temps est toujours trop court et que ça mériterait d'y passer beaucoup plus de temps. On est des témoins un peu privilégiés de réalités qui sont parfois très belles, parfois un peu moins. Et c'était vraiment une expérience très marquante.
Jean-Baptiste François, c'était votre première fois également à vous. Témoin de réalités différentes, c'est ce que vous avez ressenti?
Oui, alors c'est vrai que je connaissais un petit peu l'Afrique de l'Ouest, ouais. Et puis là c'est autre chose. Je m'attendais à quelque chose coincé entre l'Asie et l'Afrique. On est pas tout à fait en Afrique, mais voilà, tout est un peu décalé, donc on trouve des repères. Mais moi ce que je voulais dire, c'est que quand on part comme ça dans un reportage qui est aussi un partenariat, on se croit sur un rail, parce que justement il y a des gens chargés de mission qui ont travaillé avant nous, qui nous ont un peu balisé le terrain. On est encadré par deux ONG, donc le CCFD et le Cradoi, qui est le partenaire, ouais, local. Et puis en fait on se laisse surprendre par les situations. C'est pas exactement ce qu'on pensait, et je crois que voilà, en plus on a formé une équipe, une sorte de symbiose là, ouais. c'est une sorte de assez idéal. On a une radio, on avait la voix, on avait l'image, oui, avec Roberta, photographe, et puis moi qui fais des phrases avec des mots. Tout ça, je crois, a formé une forme d'harmonie, de symbiose. On s'est appuyé les uns sur les autres, et c'était une belle aventure.
Roberta Valerio, vous étiez déjà rendue, hein, je crois, sur l'île, quelques mois avant le reportage.
Oui, tout à fait. C'était la première fois en septembre. Et je suis jamais allée sur cette île avant cette année. C'était drôle d'y être pendant deux fois la même année. Et c'était vraiment un coup de cœur. Déjà, la première fois, j'étais allée dans le nord du pays, dans toutes autres conditions. C'était pas pour une ONG. C'était pour un client et un journal, pour suivre tout ce qui est la cueillette de la vanille, donc de l'or noir. Et après, ce fabuleux voyage avec le CCFD, très proche de la population, et une population super riche et très touchante, en fait, c'est ça.
Attachante.
Merci. Excusez-moi, je suis italienne, les mots des fois, ils viennent pas. Elles viennent pas.
On l'entend à votre accent. Véronique Alzieu, est-ce que vous êtes partie avec des idées reçues sur Madagascar?
On part toujours avec des a priori, des idées reçues. Alors, je dirais pas peut-être des idées reçues, mais comme je le disais tout à l'heure, j'avais entendu parler d'eux.
Oui.
Et alors, comme disait Jean-Baptiste, des choses se confirment, et puis on est aussi quand même pas mal bousculé par les réalités qu'on voit sur le terrain, par les gens eux-mêmes. Ça, les gens sont toujours surprenants, les personnes. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que, évidemment, nos vies sont très différentes, mais au fond, l'humanité est toujours un peu la même. Les préoccupations, les raisons de s'enthousiasmer, les craintes, ça, c'est universel, et je trouve ça assez beau de se rendre compte qu'on est tous fait un peu de la même pâte. Après, évidemment, il y a des réalités qui sont très, très frappantes, très marquantes. On en parlait il y a quelques minutes avec Charlotte. Je lui disais que moi, ce qui m'a frappée à Madagascar, oui, j'ai raconté ça à tout le monde, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de vieillards.
Ah, oui.
Il y a très peu de vieux. Bon, aussi, j'ai eu la chance d'aller un peu en Afrique de l'Ouest, et où on voit des vieillards sur le bord des routes avec leurs bâtons qui marchent ou qui sont assis sous des arbres. Là, non, très, très peu. Alors, j'imagine que ça dit quelque chose aussi de l'espérance de vie dans ce pays qui est quand même, à certains endroits, marqué par une pauvreté chronique.
Vous l'avez dit, Jean-Baptiste François, il y a quelques instants, l'objectif quand même de ces reportages, il faudrait qu'on le rappelle, c'était à la fois de parler de la situation des femmes dans le milieu rural, mais aussi mettre en avant des opposants à un projet minier, deux réalités vraiment différentes, deux sujets très différents. Comment ça se prépare, un reportage d'une telle envergure?
C'est une question pour moi.
Oui, Jean-François. Oui.
On a fait plusieurs réunions préalables voilà, on avait une trame. Et puis après, il y a des choses qu'on doit compléter. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'on a des rendez-vous, etc. Puis il y a des questions qui se posent. Alors si je dois prendre l'exemple de de Basse Touliaré, le projet minier donc dans le sud de l'île, bah, le projet, c'est, bon, vous parlez de ce que fait le CCFD. Le CCFD, en fait, prend pas partie ni son partenaire, mais il y a un travail d'accompagnement qui est fait, et ça, je trouve que c'était important à souligner, de faire en sorte que ce qui se fait pour les populations ne soit pas fait sans les populations, qu'elles soient voilà, qu'elles puissent se déterminer en connaissance de cause. Et puis c'est vrai qu'il faut pas être naïf non plus, il y a des mécaniques de prédation en fait minière, qui là c'est un bel exemple en fait d'une firme australienne qui doit s'installer dans le sud de l'île et exploiter de l'ilménite. En fait, c'est un minerai qu'on utilise pour faire des peintures, voilà, qu'on trouve dans les objets de la vie courante, mais qui peut être radioactif. Alors voilà, ça effectivement le travail d'information est fait par ces organisations là. Et puis nous, très concrètement, effectivement, entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on a vu, il y avait une différence en fait. Et là, c'est un bon exemple. On y reviendra peut-être parce que je veux pas être trop long, mais c'est un bon exemple de reportage qui semblait balisé, qui se transforme en enquête. On a fini par enquêter. Ça, je pourrais y revenir.
Charlotte Créder, alors vous n'étiez pas, hein, je tiens à préciser, avec Véronique Roberta et Jean-Baptiste en novembre lors de la réalisation des reportages, mais ça demande pour les chargés de mission quand même de connaître vraiment les territoires, de connaître les partenaires, de voir comment ils agissent aussi sur le terrain.
Oui, bien sûr, bah, c'est donc un travail en fait de longue haleine, j'ai envie de dire. Que nous effectuons dès notre entrée en poste. Nous effectuons des missions régulières sur place. Donc je parlais tout à l'heure de toute l'acquisition de connaissances, et donc elle s'actualise au gré des missions et des rencontres que nous pouvons faire. Ça nécessite aussi d'observer comment les sociétés civiles se positionnent par rapport à certains enjeux dont nous avons pensé qu'ils étaient importants de travailler pour le pays, et donc d'évaluer par rapport à ça, voilà, quel rôle pourrait avoir le CCFD là-dedans, quel type de partenaires nous pourrions soutenir, quels seraient les éventuels besoins. Donc c'est, oui, un processus de dialogue, de rencontre, de faire connaissance.
Roberta Valerio, comment on montre, parce que vous êtes photographe professionnel, mais comment on montre la réalité? Ça demande d'être vraiment éduqué à l'image aussi.
Bah, forcément, il y a tout un travail en amont de une culture photographique qu'il y en a. Et là, pour moi, en fait, c'est vraiment le terrain, c'est aller au proche des gens. Et c'est ça, c'est montrer ce qu'on vit. Raconter des histoires, essayer d'aller au plus proche des personnes pour essayer de toucher un petit peu cette réalité. Et naturellement, après, la transcrire avec la lumière, donc avec les possibilités qu'on a, parce qu'on n'a pas tout le temps du beau soleil, faire avec le temps, faire avec ce qu'on a. Mais oui, transcrire ce qu'on regarde. Et pour ça, moi, j'aime beaucoup rester au plus long sur le terrain, me réveiller tôt, me coucher tard. Donc du coup, c'est très fatigant être avec moi en tant que photographe, je crois. Non, Véronique?
je voulais intervenir parce que c'était la première fois que je partais avec un photographe, en l'occurrence une photographe, et j'ai été impressionnée par la patience et la persévérance, quoi, de Roberta dans sa manière de travailler. Et tu cherches pas seulement la belle lumière et le bon moment, mais il y a aussi un goût, un amour des gens, quoi. Enfin,
Oui, tout à fait. Bah, je fais ce travail parce que j'aime les gens, j'aime être à côté d'eux, et ça me permet, la photographie, c'est un prétexte qui me permet de me rapprocher des gens.
Et ça se voit. Et ça se voit parce que il y a vraiment le désir d'entrer en contact avec les personnes, un grand respect, parce que la photographie, ça peut être très intrusif aussi. Et j'ai trouvé, je le dirais si t'étais pas là aussi, que dans cette manière de travailler, il y avait quelque chose de très humain et de très bienveillant et vertueux, quoi. C'était très chouette.
On demande beaucoup à la personne qu'on photographie, pardon. Et du coup, c'est important pour moi aussi leur donner quelque chose. Donc, leur donner quelque chose, c'est mon regard, mes yeux, c'est une façon de communiquer pour moi. De communiquer et de rentrer en contact de personnes qui sont totalement différentes de moi et d'essayer après de retranscrire leurs histoires.
Oui, Jean-Baptiste.
Quand Roberta a une idée de photo, c'est une idée fixe, c'est-à-dire qu'elle arrête la voiture, elle prend son appareil, elle descend de la voiture et elle monte sur la voiture.
C'est vrai, c'est arrivé qu'une fois.
C'est arrivé qu'une fois. Donc elle monte sur la voiture pour avoir un point de vue.
Celui qu'elle voulait.
Donc ça peut aller loin, une photo avec Roberta.
Mais ce que vous dites tous les trois, c'est qu'il y a quand même la passion de raconter des choses. Véronique, vous parliez de l'aspect très humain dans la photographie de Roberta. C'est pareil pour vos reportages. C'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais on écoutera d'ailleurs un extrait de votre reportage Contre-courant qui a été diffusé la semaine dernière, si je me trompe pas, sur la situation justement des...
C'est cette semaine.
Bah voilà, des femmes en action rurale de Madagascar, une asso qui s'appelle la Farm. Mais il y a quand même ce côté très humain. Vous êtes obligé quand même de vous mettre à la hauteur des personnes que vous interviewez.
On essaie autant que possible. Ouais. Ça prendrait, enfin. Dans l'idéal, il faudrait y passer des semaines pour comprendre quelle est la réalité des personnes à qui on tend le micro, pour essayer d'être le plus fidèle et le plus respectueux possible de leur vie. Par moment, on a l'impression d'arriver, de capter des sons, de leur voler quelques réponses et de repartir. J'espère que c'est pas tout à fait l'impression qu'on leur donne, mais en tout cas, c'est l'intention, c'est-à-dire de donner à entendre aux auditeurs une réalité, des tranches de vie qui sont des histoires en réalité, qui s'inscrivent dans le temps, qui s'inscrivent dans la durée, parce que nous, on vient. On prend des photos, on écrit, on pose des questions ou on tend un micro et on repart. Or, ces gens-là, au moment où on se parle, je me dis qu'ils sont quelque part en train de bêcher la terre avec des bâtons, de partir pêcher avec leurs, je ne sais pas si on peut dire des rafios, mais ça ressemblait quand même un peu à ça. C'était des bateaux un peu de fortune. Ils sont en vie, là, en ce moment, ces gens. Et donc, il y a une volonté de les respecter dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, et d'essayer de donner à entendre, à lire ou à voir quelque chose de leur vie qui est forcément partial, parce que nous, on a été là un instant, mais qui, en réalité, est pour eux, est un enjeu parfois de vie ou de mort. Quoi.
On a l'image avec Roberta, le son avec Véronique Alzieux. Jean-Baptiste, avec vous, c'est la presse, c'est la Croix notamment, là où vous travaillez. Ouais. Comment on fait pour raconter des choses par écrit comme ça?
Parfois, c'est votre métier, hein, bien sûr. Qui s'imposent, ouais. Parce qu'on a assisté à des scènes quasi cinématographiques, et parfois on peut rentrer dans les exemples, mais sur le sujet de la mine, on a vu trois types de communautés. Donc, il y avait les pêcheurs, avec des voiles rapiécées, effectivement, voilà, et sur un site, quasi sacré, parce que en fait c'était pas seulement une plage où devait avoir lieu le débarquement des minerais si ce projet a lieu un jour, c'est aussi un lieu où les gens viennent prier. On a vu la communauté d'agriculteurs et puis on a rencontré la communauté Mickey. Et ça, c'était, je pense, un temps très très fort. Moi, j'avais jamais vu une communauté qui vivait à ce point en symbiose avec un milieu aussi hostile, sans eau. Ce sont des gens, en fait, qui boivent la rosée du matin dans des coquilles d'escargots pour boire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de puits. Ce sont des gens qui frottent des babous, c'est-à-dire des racines, racines d'arbres qui contiennent de l'eau pour s'hydrater. Et donc, c'est vrai que ces scènes-là, elles se sont vite imposées à nous. Je pense que Roberta, toi, tu t'es régalée en photo.
Oui, tout à fait, je me suis régalée. Mais c'était aussi assez difficile parce que justement, t'as jamais assez de temps. Il y a toujours cette question de se faire accepter, de leur demander des choses. Et après, qu'est-ce qu'on lui donne, ce qui est invoqué aussi. Ça pose toujours une question aussi éthique. Donc les scènes étaient là, devant moi. Mais après, justement, on se pose des questions. Comment les photographier, comment après être utile pour leur cause aussi.
Ouais. Charlotte Kreder, quand vous allez rencontrer des partenaires locaux, vous restez combien de temps sur place? Combien de temps vous restez pour essayer justement de nouer quelque chose?
Bon, ça, je dirais que ça dépend des circonstances, des collègues, des pays et des lieux à visiter, enfin des objectifs des missions. Mais en gros, moi personnellement, c'est des missions de... Oui, 15, 18 jours.
Ouais. Et ça permet vraiment... Oui, Véronique, vous vouliez réagir.
Non, je laisse Charlotte peut-être terminer, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même eu deux temps dans notre reportage. Une première partie dans les environs de Tana, donc de la capitale, oui. Où on est resté 2-3 jours, et où là, les reportages ont porté sur l'association Farm.
Femmes en Action Rurale de Madagascar, voilà.
C'est ça. Et qui aide des femmes paysannes, agricultrices, à essayer d'obtenir des terres à cultiver. Il y en a beaucoup à Madagascar, mais elles sont très peu disponibles, notamment pour les petits paysans et notamment pour les femmes qui ne peuvent pas hériter des terres. Ces femmes, elles se retrouvent avec des espèces de petites parcelles ridicules sur lesquelles elles peuvent très peu cultiver et donc difficilement subvenir aux besoins de leur famille. Or, Farm les aide à acquérir des terres, soit en les achetant, soit en les louant auprès des municipalités, des villages, des maires, etc., pour pouvoir cultiver suffisamment et avoir de l'argent pour payer l'école des enfants. Ça, c'est leur grande préoccupation, acheter ce qu'elles peuvent acheter à la ville, etc. Et ça, c'était une partie du reportage qui était quand même, j'ai trouvé, moi, plus facile parce que on n'est pas très loin de la capitale, parce que il y a quand même de quoi vivre. Si les cultures donnent bien, ça peut permettre quand même d'acheter un zébu, par exemple, ce qui est le moyen, ça remplace le tracteur, hein, de cultiver correctement. Donc cette partie du reportage a été, on va dire, une entrée en matière assez, peut-être un peu moins surprenante. Et puis ensuite, on s'est déplacé à presque 1000 kilomètres de la capitale en direction du sud. Et là, on était à Tuléar, ça c'est le nom français de la ville Toliara, qui est une des plus grosses villes du sud de Madagascar. Et là, c'est là que, comme le disait Jean-Baptiste et le racontait Roberta aussi, on a pu voir la tension qui existait autour de ce projet d'exploitation minière qui est loin de faire l'unanimité. Il y a les pour et il y a les contre. Oui. Et c'est ça qu'on a pu observer avec des gens qui défendent ce projet, pensant que il va y avoir beaucoup il va y avoir des retombées économiques, et puis ceux qui sont contre parce que ça leur fait très peur pour des raisons notamment écologiques.
Qui sont les défenseurs? Est-ce que ce sont des locaux ou ce sont plutôt des personnes de cette firme australienne qui essayent de s'implanter, Jean-Baptiste?
Alors, Bastoyari, cette firme australienne, elle a des moyens alloués aussi pour le soutien aux communautés, c'est-à-dire qu'elle a pu convaincre ce qu'on appelle des notables. Alors les notables, ça peut être différentes choses de Madagascar, ça peut être des maires, mais ça peut être aussi des chefs traditionnels. Donc en réalité, le Bastoyari a quand même réussi à convaincre une majorité de maires, mais quelques-uns résistent. Et surtout dans les communautés après des activités de pêcheurs ou d'agriculteurs. En fait, les gens dont la terre ou dont l'activité peut être aussi affectée par l'implantation de ce projet qui là sont vraiment très très remontés. Il y a des si on prend la communauté des pêcheurs par exemple, le projet est suspendu depuis 2019, hein, donc ouais. Mais la crainte, c'est ce qui recommence, mais tous les jours il y a des rondes qui sont organisées sur la plage. Les pêcheurs sont équipés de harpons et ils font des rondes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles installations ou ils surveillent les visites. Il y a eu des visites de députés, par exemple, qui sont des gens qui défendent le projet. Ils ont pu être pris à partie en leur disant qu'ils n'ont rien à faire ici. Donc voilà, on est dans ce genre d'ambiance, mais c'est vrai que ça, c'est plutôt au CCFD de documenter tout ça. Mais nous, ce qu'on nous a dit aussi et ce qu'on nous confirme, c'est que ces projets ces implantations de mines, en réalité, économiquement, ils profitent assez peu aux populations, parce que c'est une question de qualification. Alors au début, quand on construit une route, quand on fait, voilà, il peut y avoir des effets positifs parce que on est en demande d'une recherche de main d'œuvre qui est relativement peu qualifiée. Mais ensuite, c'est pas dans le bassin d'emploi qu'on va venir chercher.
Les ingénieurs ne sont pas tuléards, quoi, ouais, globalement. Exactement.
Charlotte Créder, c'est votre partenaire sur place, c'est le CRADOI, c'est ça, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, CRADOI ?
Centre de recherche et d'action pour des alternatives de développement, océan Indien.
Voilà. Et c'est vraiment ce partenaire qui vous a permis, vous, CCFD Terre Solidaire, d'aller chercher ces situations, à la fois la situation des femmes en milieu rural et puis ce projet d'exploitation minière, c'est ça ?
Exactement, puisque en fait les femmes qui sont accompagnées par FARM, donc Femmes en Action Rurale de Madagascar, sont des femmes qui, à l'origine, étaient des femmes des communautés qui luttait contre les différents projets miniers sur lesquels le CRADOI se mobilisait et accompagnait les communautés. Puis ça s'est peu à peu, le réseau s'est peu à peu étendu, mais à l'origine, c'était pour accompagner ces femmes des communautés pour développer justement des alternatives pour pouvoir vivre et de ne pas seulement se placer en opposition au projet, mais de pouvoir démontrer aussi que des choses peuvent être faites. Et les communautés sont en mesure de pouvoir déterminer et choisir le modèle de développement qu'elles veulent mener.
Ça nécessite quand même de les motiver, de les encourager à faire ça.
Je pense que il y a peut-être un travail d'éducation qui est fait sur les droits des personnes. Et un travail de sensibilisation aussi sur ce que ces projets en fait vont apporter, parce que en fait ces projets extractivistes sont assortis, en fait c'est toujours le même paradigme qu'on voit sur tous les projets, c'est qu'en fait on a des politiciens qui recherchent extraire des ressources naturelles pour produire de l'argent. Avec un discours auprès des communautés, leur disant vous n'êtes pas développé, ça va vous apporter le développement. Et donc l'idée, c'est de démontrer, en donnant d'autres exemples aux communautés, que ça va leur apporter tout sauf le développement.
Et on va continuer d'en parler dans un instant. On va marquer une petite pause. Véronique Roberta, Jean-Baptiste et Charlotte, vous continuez de nous appeler pour nous parler de Madagascar et du CCFD Terre Solidaire au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et jusqu'à 11h, on vous propose un petit voyage sur l'île de Madagascar pour découvrir les coulisses de reportages réalisés par une équipe de journalistes pour raconter certaines situations. Et puis pour voir aussi comment le CCFD Terre Solidaire travaille sur place avec ses partenaires locaux. On continue d'en parler après cette chanson de Tikenja Fakoli et vous témoignez au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou alors si vous préférez directement dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Ils étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez le Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne.
Rien ne m'étonne, version acoustique, Tikenja Fakoli et Naman pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Je m'appelle la Lune. Si vous voyez la Lune, c'est ça mon nom.
C'est-à-dire ?
Vous pouvez m'appeler Lune.
Et en malgache ?
Fulana.
Fulana.
Et ouais. Quel âge avez-vous ?
J'ai 27 ans. J'ai mon baccalauréat en série A1 en 2014. je fais le français une an, hein, environ une an, et j'abandonne l'université après ça parce que on n'a plus d'argent et moi aussi je tombe amoureuse de mon mari et on s'est mariés déjà. Nous sommes mariés et nous obtiendra déjà deux enfants, une fille et un garçon.
Et vous habitez à la campagne?
Ouais.
C'est dur?
Exactement. C'est comme tout le travail, je crois.
Voilà, on entendait Lune, je crois, c'est son prénom, et votre voix, Véronique Aldieu. Hein, c'est un extrait du document Contre-courant qui a été diffusé cette semaine. Je crois que ça vous a mis les poils de réentendre sa voix, comme on dit.
Ouais, ça fait partie des rencontres qui nous ont tous un peu marqués, parce que cette jeune femme qui a 27 ans, on lui en donnait 10 de moins. Elle est d'une maturité et d'une, je sais pas, on a senti une force intérieure en elle qui nous a tous vraiment, je sais pas comment dire, ouais, bouleversés et puis édifiés. Enfin, elle nous a beaucoup impressionnés. Elle avait un beau visage et comme on, enfin, si vous me permettez l'expression, on sent qu'elle en veut et elle est très déterminée et elle a énormément de voilà de caractère, de personnalité. C'était une belle rencontre. Enfin, Roberta avec son œil de photographe.
Absolument, absolument. Et le fait de la réentendre, ça m'a fait hérisser les poils. Et c'est et donc je me rends compte de la puissance de la voix aussi, qui ramène tout de suite à une vérité et qui ajoute énormément à la photo, comme l'écrit d'ailleurs aussi. Ouais.
Jean-Baptiste aussi, je crois que ça t'a marqué toi.
Mais comment Jean-Baptiste, pardon, je me permets de vous couper la parole avant même que vous la preniez, mais comment on fait pour oublier son métier de journaliste quand on interview justement des personnes comme ça qu'on n'aurait jamais l'occasion de rencontrer en France, par exemple?
Alors, sur le moment, c'est un peu difficile de l'oublier, parce que à ce moment-là, Véronique, elle tend un micro. Moi, j'ai mon petit carnet de notes et je suis en train de noter. Mais c'est vrai que on fait pas une partition de soi, journaliste et l'être humain. On arrive à journaliste avec qui on est, avec ce qu'on est. Et moi, c'est vrai que elle crevait l'écran, cette jeune femme, avec une autre qui était là. Et moi c'est vrai qu'on est ressorti de là en se disant, parce qu'on était dans une petite cabane qu'ils appelaient le chalet, en fait, dans un jardin de formation à l'agroécologie. Donc on apprenait, c'était un lieu où on apprenait à faire, où on apprend toujours à faire de l'engrais naturel, voilà, à essayer d'augmenter aussi la productivité sans engrais, des engrais qui coûtent cher. Donc quand on se passe d'engrais, on fait des économies, l'économie faite permet d'envoyer des enfants à l'école. Donc c'est tout ce cercle vertueux qu'on cherche chez Farm. Et là, ces deux femmes, en fait, elles venaient pas tout à fait de la campagne. Elles avaient un profil hybride, et c'est ça qui était intéressant, parce qu'on se dit qu'au début, c'est un projet qui va profiter au monde paysan de Madagascar. Et là, vous avez entendu qu'elle parlait parfaitement français. Tout le monde parle pas français à Madagascar. Elle avait passé un bac, puis elle avait commencé des études supérieures. Et en fait, elle vivait à la campagne par choix. Ouais. Et ça, c'est intéressant d'avoir. Il y avait une autre jeune femme, pareil, qui avait un petit profil Greta Thunberg, mais elle connaissait pas Greta Thunberg. Elle voulait changer les choses, elle voulait devenir avocate. Elle voulait. Et ça, c'est très positif d'avoir ce profil-là, parce que c'est pas des gens qui subissent une situation et puis qui sont aidés pour la subir un peu moins. C'est des gens qui sont déterminés et qui veulent faire, par exemple, de la agriculture saine, un mode de vie. Et ça existe chez nous, mais ça existe aussi à Madagascar. Et ça donne un peu d'espoir quand on sort de ces rencontres-là, parce que y a beaucoup de désespérance à Madagascar, ouais. Notamment dans le monde politique. Les organisations qu'on voit là, elles sont complètement découplées, décorrélées de la politique. Elles veulent plus avoir affaire à la politique, et on se dit qu'il y a quand même une relève qui est là et qui pense des choses et peut-être qu'aujourd'hui la situation politique est coincée et que les gens n'en espèrent pas grand-chose, mais voilà, quand on rencontre ce genre de profils, des profils qui sont aussi des profils qualifiés, l'autre jeune femme qui était un peu de la même trempe, avait grosses ambitions aussi pour faire avancer le droit des femmes en tant que juriste. Plus tard, une jeune femme qui n'avait que 16 ans.
Ouais.
C'est des profils qui impressionnent et qui donnent de l'espoir.
J'aimerais qu'on écoute Yann au 04 72 38 20 23. Bonjour Yann.
Bonjour, du Lot-et-Garonne.
Eh bien, ravi, on vous écoute.
Oui, alors moi je voudrais remercier d'abord l'année dernière Manawana Tupko, ça veut dire bonjour en malgache. J'ai fait ma coopération il y a longtemps avec la DCC à Madagascar, puis après j'ai eu la chance d'apprendre la langue, puis après j'ai passé le concours. Je suis prof dans l'enseignement catholique et j'avais toujours un coin de ma tête de dire j'aimerais bien emmener des jeunes plutôt terminal, donc plutôt l'âge 17 ans, pour vivre un temps à Madagascar. Alors, c'est ce qui s'est passé, donc dans mon école catholique Sainte-Catherine, à Villeneuve-sur-Lot. On a fondé un club Madagascar en seconde, et puis tous les semaines, au dehors de leur cours, ils sont venus, 5 élèves motivés, et puis première, terminale, ça y arrive le moment où on part, et donc c'était novembre 2022.
Oui.
Et classiquement, alors ça a été, à cet âge-là, ils voulaient révolutionner, on va sauver Madagascar. On est parti à Mouramang et en fait, ils ont beaucoup plus reçu qu'ils ont donné. Ils ont participé avec un spectacle de fin d'année avec les jeunes. Ils ont peint la salle de classe, ils ont donné des cours, ils ont rapporté des ordinateurs. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ce pays a une capacité d'accueil. C'est vrai qu'il est pauvre, mais alors de voir nos jeunes Français retrouver des compétences aussi du savoir-être, voir le respect que les élèves ont envers... moi, ça a rêvé, j'arrive dans une classe, 60 élèves par classe, bonjour, pas de bruit. Et donc, nos élèves ont vraiment été touchés. Aujourd'hui, ils sont en études supérieures. Voilà, donc, je voulais témoigner de ça, que c'est un pays très attachant et que la brousse, c'est vrai, la Mbanibouitch, c'est vrai que c'est différent de la capitale, mais je suis content pour eux parce que ça, finalement, c'est Madagascar qui a aidé nos jeunes.
Ouais.
C'est marrant, voilà.
Merci Yann, merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner dans Je pense donc j'agis. Véronique Algeux, vous confirmez un peu ce que dit Yann, une capacité d'accueil en parlant de Madagascar et des habitants de Madagascar.
Oui, c'est un pays très attachant, très impressionnant, c'est immense.
Ah oui.
Vraiment, on sait que c'est grand, mais quand on y est, on se rend compte qu'on n'a vraiment pas vu grand-chose finalement. Et les contrastes sont, paraît-il, très impressionnants. Nous, on était beaucoup dans le sud, et il paraît que dans le nord, vers l'île de Nosibé, etc., ce sont des plages magnifiques, très touristiques. Nous, on était dans une zone qui l'est beaucoup moins, même si les plages sont très belles. Mais là, ce sont vraiment des plages de pêcheurs, où on voyait, comme le disait Jean-Baptiste, tout à l'heure, ces pêcheurs qui partent travailler le matin avec leur bateau. Les gens sont très accueillants, oui, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même, je sais pas, il y a une espèce de dignité. C'est pas du
d'humilité.
Tout comme l'Afrique de l'Ouest. De dignité, enfin oui, humilité peut-être, mais de dignité. Je peux pas exactement vous dire. Pourquoi j'ai senti quand même une différence entre l'Afrique de l'Ouest et Madagascar. J'ai pas les connaissances suffisantes pour pouvoir apporter des arguments, mais il y a quelque chose de peut-être de plus grave chez les Malgaches. Je sais pas comment le dire autrement, Jean-Baptiste.
Moi, j'ai été étonné par la tranquillité avec laquelle il nous disait on est prêt à prendre les armes s'il faut.
Ah oui.
Très tranquillement, comme
ça.
Ah oui,
contrebasculaire.
C'est-à-dire qu'on sait que la tempête peut surgir, que ça a déjà été le cas. Nous, on ne l'a pas vu, par exemple. Ces épisodes de violence qu'il y a eu, on ne les a pas vus. Mais les gens nous exposent ça avec énormément de sang. Nous ont exposé ça avec énormément de sang-froid et de calme. C'est un contraste qui est surprenant. Alors moi, je ne vais pas comparer avec d'autres situations, mais j'avais rarement vu ça, cette espèce de colère froide ou de sérénité agitée, un peu l'art des contraires dans l'expression, entre la façon de le dire et la chose qui est exprimée. Quoi.
Vous l'avez senti ça, Roberta Valerio, dans les postures et les visages quand vous preniez des photos?
Alors oui, je pense que je reviens à ce que tu avais dit, Jean-Baptiste, sur ce mélange entre l'Afrique et l'Asie. Moi, j'ai beaucoup ressenti, j'ai passé 9 mois en Asie du Sud-Est, il y a longtemps, mais je me suis vraiment penchée avec les gamins des rues. J'ai un peu essayé de vivre avec eux et ils sont très, très ouverts. Et j'ai un peu retrouvé cette ouverture que je n'ai pas retrouvée dans d'autres coins d'Afrique, cette ouverture complète vis-à-vis de l'autre, qui est très enrichissante et qui est très étonnante pour un pays africain où on a toujours un petit peu une distance. Tout à fait. Donc, à un niveau photographique, c'est vrai que c'est, on peut dire entre guillemets, facile, mais ils sont très généreux, en fait. Très généreux.
Charlotte Kreder, vous connaissez Madagascar. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment qu'il y a, alors comme a dit Véronique, une forme d'humilité, de dignité, et puis de fierté aussi d'habiter Madagascar?
Oui, tout à fait. L'impression que j'ai, c'est que les Malgaches sont extrêmement fiers de leur culture, de leurs valeurs aussi traditionnelles. Et donc, il y a tout un historique, en fait. Il y a un lien fort avec cette terre. Il y a eu, de par l'histoire, de très fortes révoltes, en fait, pour défendre cette terre. Et je pense que l'esprit est encore là. On l'a vu en 2009 avec l'affaire Daewoo, où des terres devaient être cédées à une entreprise coréenne. Et là, je pense que ça revient, en fait, cette volonté de se défendre, parce qu'on a un gouvernement qui va de plus en plus vers des projets extractivistes et qui vont risquer de mener à des accaparements de terres à grande échelle. Et donc, effectivement, je pense que les gens se rendent compte de ça. Ils sont prêts à se battre pour leur terre.
Ouais, c'est impressionnant.
Si je peux ajouter quelque chose.
Bien sûr, Véronique.
D'accord. Pardon.
Tousser un coup et puis ça ira.
Ça y est, ça va mieux.
Allez-y.
Je voulais préciser que un des gros enjeux autour du projet minier et une des raisons du combat de la population locale, c'est le déplacement des tombeaux. C'est-à-dire que les terres accaparées supposent que les tombeaux des ancêtres soient déplacés. Or ça, si j'ai bien compris, c'est quelque chose d'absolument inimaginable, même si pour certains c'est imaginable, puisqu'ils l'ont fait moyennant une certaine somme reçue par Bastuléar. Mais une des raisons de la résistance, c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui est totalement contraire à l'esprit. La directrice du Cradoï, qui s'appelle Vola, je ne veux pas m'aventurer à essayer de prononcer son nom de famille, qui est une femme extraordinaire, nous raconter à quel point c'est même... Charlotte, tu le dirais mieux que moi.
Un blasphème
Oui.
Oui, tout à fait.
On ne touche pas les morts.
Et donc, il y a ce lien entre les morts et la terre. Donc, ce n'est pas seulement... quand il y a des accaparements de terre, ce n'est pas seulement... ôter un moyen de subsistance à des populations, mais c'est également violer quelque part leur culture et ce lien sacré qu'ils ont à cette terre.
J'aimerais qu'on accueille May. Bonjour May.
Bonjour Malchior.
Ravi de vous entendre. Vous êtes née à Madagascar.
Je suis née à Madagascar en 1947. Et j'ai vécu toute mon enfance à Tuléar.
Ah bah, ça tombe bien, on en a parlé.
Ah, c'est bien, j'ai entendu.
Et alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de Madagascar, vous?
Qu'est-ce que je pourrais dire de Madagascar? Eh bien, je pourrais dire que c'est un pays magnifique, mais qui a été très malmené depuis la colonisation. Parce qu'il y a beaucoup de ressources, c'est énorme, c'est grandiose, c'est magnifique, c'est magique, parce que les Malgaches sont magiques. Ils ont le sens du spirituel, très très fort, ils font le famadine, c'est-à-dire le retournement des morts. Et la terre, ce n'est pas simplement la terre. La terre, c'est aussi la terre des ancêtres. Et j'ai participé plusieurs fois au famadine parce que je suis née à Madagascar et ma famille était très très bien acceptée. Mon père a d'abord été gardien de la prison.
Oui.
Et puis ensuite, il a fait ses diplômes de policier à Madagascar. Il était inspecteur de police et puis après officier de police. Mmh. On a fait bien sûr tout le tour des postes. On est allé à Majanga, on est allé à Diego, à Fianarantsoa.
Et vous avez vécu 40 ans, je crois, à Madagascar. Mais est-ce que vous y êtes retourné?
Alors, j'aimerais bien y retourner parce que j'ai une colocataire qui s'occupe actuellement de moi en tant qu'auxiliaire de vie. Mmh. Et j'aimerais bien l'emmener, mais vous savez, il y avait plusieurs fois, on avait le projet d'y aller, il y a eu la Covid.
Mmh. Oui, donc ça a repoussé.
Il y a eu beaucoup de cyclones, alors terre était mal menée, les pistes, vous savez, c'est pas toujours... Ouais. Très praticable.
Eh ben, écoute...
Et comme je suis en fauteuil roulant, je ne peux pas me déplacer de manière pratique, facilement.
C'est moins simple, en effet. Emeil, vraiment, merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. J'ai vu nos quatre invités vous écouter avec attention. Et ça rejoint, Jean-Baptiste François, vraiment ce que vous disiez tout à l'heure sur la terre, sur le respect de la terre à Madagascar.
Oui, on touche pas à la terre comme ça. On a fait une sorte de grande expédition parce qu'on a tenu à s'approcher du carreau d'extraction qui est prévu en fait si le projet devait démarrer. Et on a assisté à c'était vraiment un paysage de désolation déjà parce que tout était brûlé. Alors ça c'est dû aussi à la culture sur brûlis, mais on a vu. Ces tombeaux en fait vides qui ont été vidés, c'est assez poignant, ces scènes de désolation parce que en fait c'est des sortes de monticules de pierre et les tombeaux sont creusés dans le tronc des arbres et c'était des tombes. Alors on nous a dit qu'elles dataient des années 50 ou 60, mais en tous les cas qui étaient traditionnelles elles ont été pour ceux qui ont accepté en fait le déplacement de ces tombes, elles ont été rapprochées des villages, mais c'est pas du tout la tradition. Et on a eu le témoignage de femmes qui nous ont dit non mais on est maudits, c'est-à-dire que toucher au corps c'est une malédiction pour la famille entière. Et ça, il y a une enfin c'est vrai qu'on peut voir que ça amène de la souffrance spirituelle. De gens qui sont dans le désarroi parce que leur présent, leur vie est connecté à ses ancêtres et à ses morts. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez tragique. Véronique,
je voulais dire aussi qu'en plus ça crée des tensions énormes dans les communautés. C'est-à-dire que dans un même village, dans une même communauté, il y a les pour, il y a les contre. Et que ça divise. Ça divise les communautés et que c'est dramatique parce que ça peut aller, tu le disais Jean-Baptiste tout à l'heure, ça a occasionné des violences physiques. Hein. Les gens se sont battus. Ça continue de temps en temps. Dès que il y a des manifestations, soit pour, soit contre, ceux qui sont pas d'accord se manifestent aussi et puis ça finit en bagarre.
C'est vrai que quand on arrivait dans ce village Mickey, donc cette communauté autochtone qui vit vraiment en symbiose avec son environnement, on est dans une communauté où le vêtement existe à peine, etc. Alors les gens nous ont montré tout ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire le feu, la musique et tout ça. On était comme suspendus dans le temps. On se dit le temps ne s'écoule pas, tout est resté les mêmes, tout est resté la même chose depuis très 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 longtemps. Et c'était pas du tout le cas parce que en discutant avec le chef, en discutant après, en recoupant les informations, on s'est rendu compte qu'il y avait un sixième de la population du village qui avait été chassé, et c'était le sixième de la population qui était pour le projet. Donc en fait c'était un village, il y avait quelque chose d'immémoriel dans les scènes qu'on voyait, mais quelques temps auparavant seulement le village avait été complètement déchiré socialement par les pour et les contre du projet minier.
Regardez l'horloge tous les quatre, on arrive à la fin de cette émission et j'aimerais qu'on parle justement de la fin de votre reportage. Retour en France, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, de tout ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y a un temps de redescente, Roberta Valerio?
Oui, bien sûr. Il y a un temps de redescente. Je passe devant l'écran. Je regarde tout. Je reparcours un petit peu l'histoire de notre reportage. Mmh. Et donc, je commence à faire l'editing. Et c'est pas évident. Et tout revient, tout ressurgit. Et du coup, voilà. Après, petit à petit, on fait une sélection et on essaye de raconter ces histoires. Donc, les photos sont je les ai passées au CCFD Terre Solidaire et ensuite aussi à la Croix. Et donc, ils permettent d'illustrer les textes de Jean-Baptiste.
Et où est-ce qu'on peut trouver vos photos, Roberta, actuellement, par rapport à ce reportage?
Ce reportage
dans la Croix.
Pour l'instant, dans la Croix, il y a eu un article qui était paru. Un autre article va paraître bientôt la semaine
jeudi prochain.
Et pour l'instant, je les ai pas encore mis sur le site. Ce sont peut-être déjà visibles sur le site du CCFD Terre Solidaire, mais je ne suis pas certaine parce que il faut un petit peu de temps quand même.
Vous en avez pris combien de photos?
Ah, impossible de dire. Beaucoup.
Mais un ordre de grandeur quand même.
Ah non, mais je les compte pas. Je pense que je fais un déni.
je confirme qu'elle en a pris beaucoup.
Plusieurs milliers, non?
Oui, peut-être. Oui. Et après, voilà, il y a un gros travail de choix derrière, mais les bonnes photos, je sais déjà où elles sont, à peu près, où elles se situent. Donc ça va aussi assez vite. Pour donner un ordre de grandeur, un jour de reportage, un jour de post-prod. Donc, si on part pour 10 jours, c'est 10 jours de post-prod, de choix, et après, il faut laisser reposer, il faut prendre du recul pour voir l'histoire, parce qu'on est dans l'histoire. Mmh. Et du coup, il faut... Oui.
Ouais. Véronique, deux reportages, un qui est donc diffusé cette semaine contre-courant, où on peut écouter, et notamment l'une qu'on a entendue tout à l'heure, et ce reportage avec ces femmes dans le milieu rural, et un autre qui va sortir dans une ou deux semaines.
La semaine prochaine, voilà, le deuxième épisode. Le premier reportage porte sur l'association Farm, donc dans les environs de Tana, de la capitale, et permet d'entendre la réalité de ces femmes en monde rural qui se battent pour subvenir à leurs besoins. Et le deuxième reportage, lui, porte donc sur Tuléar et le combat des communautés locales contre le projet minier.
Et c'est pareil un peu pour vous, Jean-Baptiste François, pour La Croix, pour vos deux papiers?
Oui, il y a une double page qui est déjà parue sur en fait l'agroécologie au service du droit des femmes. Et la semaine prochaine, il y aura le projet, il y aura une autre double page sur le projet minier Bastouléa. Et c'est un moment important. On le fait pas à ce moment-là par hasard. C'est que c'est la fin du carême et que c'est aussi le temps de collecte pour le CCFD Terre Solidaire. Donc c'est tout le sens de notre partenariat aussi, de valoriser des beaux projets et de faire en sorte de sensibiliser aux dons pour le CCFD Terre Solidaire.
Charlotte, en un mot?
Oui, moi je voulais juste honorer en fait nos partenaires et l'action qu'ils mènent, parce qu'ils travaillent dans un contexte extrêmement difficile. Les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement sont criminalisés, poursuivis, il y en a qui sont assassinés. Et donc, je voudrais vraiment les soutenir dans ce travail incroyable qu'ils font.
Eh ben, merci beaucoup. Merci vraiment à tous les quatre d'avoir été avec nous. Véronique Algieux, à bientôt, Véronique.
À bientôt, Melchior.
Roberta Valerio, photographe. Jean-Baptiste François, journaliste à La Croix. Et Charlotte Créder, chargée de mission CCFD Terre Solidaire. On remercie également Sophie. Un grand merci, Sophie, pour son aide, pour le calage de ces émissions. Merci à Nicolas et Catherine à la réalisation. À demain, avec grand plaisir.